La soirée ne faisait que commencer, mais un mec dealait déjà ouvertement de la coke et du shit à l'arrière de la salle. Tout ce que j'avais toujours fui. Vêtu d'un vieux blouson en cuir rapiécé et d'un t-shirt de Dépêche Mode, Stéphane Pianelli était accoudé à la barrière, en train de vapoter et de siroter une tourtelle. « T'es pas allé au concert, finalement ?» D'un signe de tête, il désigna un gamin de 5 ans qui s'amusait à se cacher sous les tables. « Mes parents devaient me garder Ernesto, mais ils ont eu un empêchement de dernière minute », expliqua-t-il en recrachant sa vapeur d'eau qui sentait le pain d'épices. L'obsession de Pianelli se lisait jusque dans le prénom qu'il avait donné à son fils. « C'est toi qui as choisi de l'appeler Ernesto ? Comme Ernesto Guevara ?»« Ouais, pourquoi ? Tu n'aimes pas ?» demanda-t-il en levant un sourcil menaçant. « Si, si !» répondis-je pour ne pas le vexer. Sa mère pensait que c'était trop cliché. « C'est qui, sa mère ?» Son visage se ferma. « Tu la connais pas ?» Pianelli me faisait rire. Il trouvait légitime de s'intéresser à la vie privée des gens, à condition que cela ne soit pas la sienne. « C'est Céline Felpin, non ?»« Ouais, c'est elle. » Je m'en souvenais bien. Une fille de Terminal A, très remontée contre les injustices et toujours à la pointe des mouvements de grève lycéens. Le pendant féminin de Stéphane, qu'elle avait suivi à la fac de lettres. Dans la mouvance de l'extrême gauche, ils avaient partagé nombre de combats pour les droits des étudiants et des minorités. Je l'avais croisée récemment, il y avait 2 ou 3 ans, sur un vol New York-Genève. Métamorphosée. Elle portait un Lady Dior et accompagnait un médecin suisse dont elle avait l'air très amoureuse. On avait échangé quelques mots, et je l'avais trouvée joyeuse et épanouie, ce que je me gardais bien de répéter à Pianelli. « J'ai des trucs pour toi », dit-il pour changer de sujet. Il fit un pas de côté, et son visage fut tout à coup éclairé par l'une des ampoules blanches de la guirlande lumineuse. Lui aussi avait des cernes et les yeux injectés, comme s'il n'avait pas fermé l'œil depuis longtemps. « T'as obtenu des infos sur le financement des travaux du bahut ?»« Pas vraiment. J'ai mis mon stagiaire sur le coup. Mais le secret est bien gardé. Il te contactera lorsqu'il aura trouvé quelque chose. » Il chercha son fils des yeux et lui adressa un petit signe. En revanche, j'ai pu jeter un coup d'œil au projet final. Les travaux sont vraiment pharaoniques. Certains trucs hors de prix ont une utilité qui ne me saute pas aux yeux.
Tu penses à quoi ?
À un projet d'immense roseraie, le jardin des anges. Tu en as entendu parler ?
Non.
C'est démentiel. L'ambition est de bâtir un lieu de recueillement qui s'étendrait de l'emplacement actuel des champs de lavande jusqu'au lac.
Comment ça, un lieu de recueillement ? Il haussa les épaules.
Mon stagiaire m'a raconté ça au téléphone. Je n'ai pas tout saisi, mais j'ai autre chose pour toi.
Il prit un air mystérieux et sortit de sa poche une feuille de papier sur laquelle il avait pris des notes.
J'ai eu le rapport de police sur la mort de Francis Biancardini. C'est vrai qu'il a morflé, le pauvre vieux.
Il a été torturé.
Une flamme mauvaise brilla dans ses yeux. Oui, salement. Pour moi, ça accrédite la thèse du règlement de compte.
Je soupirai.
Mais quel règlement de compte, Stéphane ? Toujours ton histoire de mafia et de blanchiment d'argent ? Réfléchis 3 secondes, putain. Même si Francis travaillait pour eux, ce que je crois pas, pourquoi l'aurait-il éliminé ? Il a peut-être essayé de doubler les mecs de l'Andrangheta. Mais pourquoi faire ? Il avait 74 ans, il avait plein de blé. Pour ces mecs-là, on n'en a jamais assez. Laisse tomber, t'es trop con. Il a vraiment essayé d'écrire le nom de son agresseur en lettres de sang ?
Non. Ça, la fille m'a avoué l'avoir inventé pour donner de la dramaturgie à son article.
Par contre, Francis a essayé d'appeler quelqu'un juste avant de mourir.
On sait qui c'était ?
Ouais. C'était ta mère.
Je restais de marbre, tâchant de désamorcer la bombe qu'il venait d'armer.
Logique, ils sont voisins, ils se connaissaient depuis l'école.
Il acquiesça de la tête, mais ses yeux disaient « Raconte ça à qui tu veux, mon pote. » Mais à moi, tu vas pas me la faire.
On sait si elle a décroché.
Tu lui demanderas, répondit-il.
Il termina sa bière sans alcool. Allez, on rentre à la maison. Demain, il y a entraînement de foot, lança-t-il en rejoignant son fils.
4. Je jetai un coup d'œil dans la salle. Maxime était toujours entouré de sa petite cour. À l'autre extrémité de la terrasse, on avait installé un deuxième bar, genre tripot clandestin, qui servait des shots de vodka. Je pris un verre, vodka menthe, et puis un autre, vodka citron. Ce n'était pas raisonnable, mais je n'avais pas d'enfant à ramener à la maison, ni d'entraînement sportif le lendemain. Je n'aimais ni la tourtelle, ni le jus d'épinard, et je serais peut-être en prison la semaine prochaine. Il fallait vraiment que je retrouve ma mère. Pourquoi s'était-elle enfuie ? Parce qu'elle avait peur que je découvre la vérité ? Parce qu'elle craignait de subir les mêmes atrocités que Francis ? Un troisième shot de vodka, cerise, pour me faire croire que je réfléchirais mieux en état d'ébriété. À long terme, c'était faux, bien sûr, mais le temps que l'ivresse s'installe, il y avait parfois une courte période d'euphorie, ce moment où les idées s'entrechoquent et où, avant le grand chaos mental, se produit une petite étincelle. Ma mère avait pris ma voiture de location, un véhicule sans doute équipé d'un capteur GPS. Je pouvais peut-être appeler l'agence, prétendre qu'on m'avait volé la bagnole et demander à ce qu'on la localise. C'était jouable. Sauf qu'on était samedi soir et que ça n'allait pas être coton. Un dernier shot de vodka, orange, pour la route. Mon cerveau tournait à toute vitesse. C'était grisant. Sauf que ça n'allait pas durer. Heureusement, une idée plutôt astucieuse traversa mon esprit. Pourquoi ne pas chercher tout bêtement à localiser mon iPad qui était resté dans la voiture ? Le flicage moderne et consenti le permettait. Sur mon téléphone, je lançai l'application dédiée. Correctement paramétré, le truc était assez efficace et marchait plus d'une fois sur deux. J'entrai les coordonnées, mon email et un mot de passe, et je retins mon souffle. Un point se mit à clignoter sur le plan. Je zoomai sur la carte avec deux doigts. Si ma tablette était toujours dans la voiture, celle-ci se trouvait à la pointe sud du Cap d'Antibes, dans un endroit que je connaissais, sur le parking de la plage Keller, là où se garaient les clients du restaurant, ou les touristes qui voulaient aller se balader sur le sentier du littoral. J'appelai mon père dans la foulée. « J'ai retrouvé la voiture de maman. »« Comment t'as fait ?»« Je te passe les détails, mais elle est sur le parking Keller. »« Mais qu'est-ce qu'Annabelle fout là, bon sang ?» À nouveau, je le sentis démesurément inquiet et compris qu'il me cachait quelque chose. Il nia farouchement, m'obligeant à hausser le ton.
« Tu me fais chier, Richard. Tu m'appelles lorsque t'as un problème, mais tu me fais pas confiance. »
« Ok, t'as raison, » admit-il.
« En partant, ta mère a emporté quelque chose. »« Elle a emporté quoi ?»«
Un de mes fusils de chasse. » Un abîme s'ouvrit sous mes pieds. Je n'imaginais pas ma mère avec une arme. Je fermai les yeux 3 secondes et une image se forma dans mon esprit. Contrairement à ce que je me faisais croire, j'imaginais très bien Annabelle avec un fusil de chasse. « Elle saurait s'en servir ?» demandai-je à mon père.
« Je pars au Cap d'Antibes, » lança-t-il pour toute réponse.
Je n'étais pas certain que ce fût une bonne idée, mais je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire d'autre.
« Je termine quelque chose et je te rejoins là-bas. D'accord, papa ?»«
D'accord.
Fais vite !»
Je raccrochai et retournai dans la salle. L'atmosphère avait changé. Sous l'effet des inhibants de l'alcool, les invités commençaient à se lâcher. La musique était forte, presque assourdissante. Je cherchais Maxime sans succès. Je compris qu'il était sorti et qu'il devait m'attendre à l'extérieur. Le nid d'aigle, bien sûr. Je quittai le gymnase et remontai le chemin qui menait à la corniche fleurie. Le trajet était balisé, ponctué par les photophores et les lanternes qui guidèrent mes pas. Arrivé au pied de l'éperon rocheux, je levai la tête pour apercevoir le bout d'une cigarette qui se consumait dans la nuit. Accoudé au balconnet, Maxime me fit un signe de la main.
« Fais gaffe en montant »
cria-t-il.
« De nuit, c'est vraiment casse-gueule !»
Prudent, j'allumai la torche de mon téléphone pour ne pas glisser et entrepris de le rejoindre. La cheville que je m'étais tordue dans l'église se rappelait à mon souvenir. Chaque pas me coûtait. Tandis que je grimpais sur les rochers, je me rendis compte que le vent qui soufflait depuis le matin était tombé. Le ciel s'était couvert et il n'y avait plus aucune étoile. J'étais arrivé à la moitié de mon ascension quand un cri atroce me fit lever la tête. deux silhouettes se détachaient dans un lavis d'encre grise. L'une d'elles était celle de Maxime, l'autre celle d'un inconnu en train de le faire basculer par-dessus la rambarde. Je poussai un hurlement et me mis à courir pour prêter main forte à mon ami. Mais lorsque j'arrivai en haut, il était trop tard. Maxime venait de faire une chute de près de 10 mètres. Je me lançai à la poursuite de l'agresseur, mais avec ma cheville tordue, je ne pus aller bien loin. Lorsque je revins sur mes pas, un petit groupe de fêtards s'était approché de Maxime et appelait les secours. Les larmes me firent cligner des yeux. Un instant, je crus distinguer le fantôme de Vinka qui déambulait au milieu des anciens élèves. Telle une apparition diaphane et magnétique, la jeune fille fendait la nuit, vêtue d'une robe nuisette, d'un perfecto noir, d'un collant en résille et de bottines en cuir. Hors de toute atteinte, le spectre avait l'air plus vivant que tous les gens qui l'entouraient.